Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Alors on va aller se payer une petite chevauchée radiophonique de 25 minutes. Et pour commencer, nous allons prendre le cheval au mot, et aujourd'hui c'est le mot felouque. Alors le cheval, on le sait, a souvent été à l'origine de mots qui a priori n'avaient rien à voir avec lui, ce cheval, et c'est le cas du mot felouque. Vous savez, ce navire à voile de taille réduite que l'on trouve encore aujourd'hui en Méditerranée orientale, notamment en Égypte, où il sert toujours au transport des passagers et des marchandises. Vers le XVIe siècle, notre langue a récupéré le mot au catalan falouca, sous la forme donc de falouque, hein, pas felouque, falouque, une variante du castillan médiéval faloua. Alors quel est le rapport entre ce petit voilier de charge et le cheval? C'est la langue arabe qui va nous fournir la réponse. En effet, l'espagnol faloua est l'exacte transcription de l'arabe faloua, qui désigne une pouliche. Comme quoi les Grecs de l'Antiquité ne se trompaient pas quand ils affirmaient que les chevaux naissaient de l'écume des vagues. Et on sait que les Grecs étaient quand même de sacrés bons marins. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un animal qui est en quelque sorte l'exact contraire de celui que le messager du cheval vous décrit et prend à cœur de promouvoir semaine après semaine. Il est généralement de taille réduite, sobre, courageux et patient. Bien sûr, vous l'avez deviné, il s'agit de l'âne. Alors dans la grande famille des équidés, on trouve bien évidemment le cheval, mais également une tribu plus modeste, moins prestigieuse, souvent dépréciée bien à tort, et qui parfois fait même sourire, la tribu des ânes. Alors beaucoup de noms différents désignent l'animal. S'il est sauvage, on parlera d'onagre, d'émion, un mot issu du grec qui veut dire âne rouge. Émion, ça veut dire âne rouge, ou encore du zèbre. Alors on dit méchant comme un âne rouge. Effectivement, les émions sont des animaux qu'il ne faut pas aller caresser de trop près. Domestiqué, on le nommera mulet si son père est un âne et sa mère une jument. Si son père est un cheval et sa mère une jument, on le nommera grand mulet. À l'inverse, si sa mère est une ânesse et son père un cheval, on parlera de petit mulet. Dans un cas comme dans l'autre, on l'appellera mulasse dans son jeune âge, mais également bourricot, bourriquet, grison, martin ou encore maître aliboron. Et entre parenthèses, l'origine d'aliboron est toujours discutée par les linguistes. Pour les uns, il viendrait d'un vieux mot issu du français élébore, cette plante médicinale qui était censée guérir de la folie. Est-ce que les ânes sont fous? Ou peut-être ceux qui s'en occupent? On verra tout à l'heure que ça peut arriver. Pour les autres, aliboron serait la déformation du nom du grand savant et philosophe arabe d'origine iranienne qui vécut entre le Xe et le XIe siècle, al-Biruni. Originaire des steppes semi-désertiques d'Asie, l'âne a conservé jusqu'à nos jours des habitudes de sobriété et de frugalité. La végétation sèche fait ses délices. À l'herbe fine, il préfère en effet les graminées coriaces et le chardon, parfois même le bois mort qu'il mâchonne par petites bouchées patientes. Moi j'avais un âne et il adorait manger le bois mort qui tombait des arnes. Voilà. À l'occasion, il ne dédaignera pas l'aubaine d'une taupe ou d'un mulot crevé, parce que là aussi, pour lui, c'est bon. C'est également un redoutable élagueur de haies, tout lui fait ventre. Et comme tout animal courageux et indépendant, on prête à l'âne une double personnalité. Alors s'il apparaît dans un cas, on le voit dans la crèche de Bethléem aux côtés de Jésus, et si c'est sur un âne que la Sainte Famille fuit plus tard en Égypte pour échapper à la persécution, il sera pourtant considéré pendant longtemps comme un animal démoniaque. On lui reproche en effet une sexualité débridée qui donnera naissance à bon nombre d'expressions très crues, mais là je vais vous laisser le soin de retrouver tout ça dans les dictionnaires d'argot. Au Moyen-Âge, c'est sur son dos que les condamnés étaient promenés dans les rues des villes au milieu des colipés de la foule avant de subir leur châtiment. Et généralement, on mettait les condamnés à l'envers sur l'âne, donc l'âne animal ignoble, et évidemment le condamné aussi était considéré comme un peu ignoble. Alors que de mots et d'expressions plus ridicules et injustes les unes que les autres s'attachent à cet animal patient et endurant. Un seul exemple. Si le cheval hennit noblement, l'âne plus modestement braie. Et braie, ça veut dire qu'il braille. Ces deux derniers verbes ayant donc cette même étymologie. Et à croire que la gueulante couinée du premier, le cheval, soit plus mélodieuse que les coups de trompette asthmatiques du second. Déjà chez les latins, on qualifiait d'âne une personne à l'intelligence limitée. D'où l'expression « avoir des oreilles d'âne », synonyme d'ignorance, de sottise, et qui valait naguère pour des générations d'écoliers, ce privilège d'aller au piquet dans un coin de la classe coiffé d'un bonnet d'âne. Cette punition stupide les reléguait au rang d'âne batté, donc un âne qui porte un bât, parfois même hélas à celui d'âne battu, parce que ça arrivait, les instits d'alors avaient la main leste. La seule solution donc était de donner au maître des gages de bonne volonté, une stratégie, il est vrai, rarement couronnée de succès, qui attirait généralement la réplique cinglante d'arrêter de faire l'âne pour avoir du son. Une stratégie en définitive assez sotte, on pourrait l'appeler une vraie ânerie. Seule consolation, si l'on peut dire, la parité entre filles et garçons était respectée puisque nous toutes et nous tous étions assez régulièrement qualifiés d'espèces de bourriques quand nous tentions d'annonner sans grand succès le théorème du carré de l'hypoténuse, vous savez, ce fameux pont aux ânes qu'il fallait franchir impérativement si l'on voulait acquérir les premiers rudiments de la géométrie. Vous vous souvenez ce fichu carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des deux côtés d'un triangle rectangle. Alors franchir ce pont aux ânes donc, au profil sans doute en dos d'âne, n'allait pas sans quelques chaos. C'était pourtant l'une des clés pour l'obtention du certificat d'études, la première peau d'âne du cursus de tout écolier à cette époque et qui était censée lui permettre d'avaler sans trop se piquer les futurs chardons qu'il rencontrerait tout au long de sa vie professionnelle. Bon an, mal an, on nous apprenait à raisonner et non à raisonner comme un tambour. Et là encore, Maître Ali Boron se sent malheureusement concerné. Alors, il sait que pour faire un tambour, le procédé est simple. Voilà. Alors, je vais vous en donner la recette. On commence par attraper un âne, on le tue. On prélève une partie de sa peau que l'on tend sur la caisse en bois de l'instrument et en avant le défilé. Peut-être une des raisons pour laquelle l'âne, animal discret, a toujours préféré se déplacer sans tambour ni trompette. L'âne a souvent inspiré les poètes et les écrivains. Dans le prologue du roman de Renard, on raconte que le prophète Balaam, accompagné d'une ânesse, reçut l'ordre du roi Balak de maudire les enfants d'Israël. Le texte dit « Dieu, qui ne voulut souffrir cette malédiction, plaça devant l'ânesse son ange, l'ange de Dieu, armé d'un glaive étincelant. Balaam eut beau frapper la pauvre bête avec le fouet, le licou, les talons, rien n'y faisait. Enfin, l'ânesse se mit à lui parler et dit « Laissez-moi, Balaam, ne me frappez plus. Ne voyez-vous donc pas que c'est Dieu qui m'empêche d'avancer ?» On peut dire que ça a été un véritable trait de génie de l'ânesse. Alphonse Daudet, bien sûr, dans les lettres de Montmoulin, nous raconte l'histoire intitulée « La mule du pape », une belle mule qu'il décrit, noire mouchetée de rouge, le pied sûr et le poil luisant. C'est vrai que les ânes ont le pied sûr. Et donc, cette mule remâche sa vengeance des années durant à l'encontre d'un jeune crétin qui lui avait fait subir les pires sévices. D'une ruade fulgurante, l'animal transformera en fumée son ancien tortionnaire. Jean de La Fontaine, lui aussi, met en scène l'âne dans ses fables, mais il en fait un animal roublard, paresseux et prétentieux. Roublard également l'âne de Sancho Panza dans le roman de Cervantes, que tout le monde connaît, bien sûr, Don Quichotte. En revanche, l'écrivain Henri Bosco nous décrit un âne doux, mais étrange et mystérieux dans son roman L'âne culotte. Mais le plus bel hymne est sans doute celui qu'écrivit le poète et romancier espagnol Juan Ramón Jiménez, qui a été prix Nobel de littérature, dans son roman Platero y yo, c'est-à-dire Platero et moi. Mais je vous abandonne au bonheur de vous laisser enchanter par ce poème en prose. Après cette lecture, on comprend que se faire traiter d'âne, loin d'être une injure, est peut-être le plus beau des compliments. Et pourtant, il va bien falloir terminer par évoquer une garce, telle qu'on la découvre dans le roman de l'écrivain écossais Robert Stevenson, qu'il a écrit à la fin du 19e et qu'il a intitulé « Voyage avec un âne à travers les Cévennes ». Alors Stevenson avait projeté une rando depuis le Cheylard en Ardèche jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Pour porter ses bagages, il s'adjoint les services d'une équipière à longues oreilles qui répond, enfin, qui est censée répondre au joli nom de Modestine. C'est mignon. Cette rando, il l'accomplira, mais à quel prix ? Il affrontera le vent, les orages et les interminables pluies cévenoles. Mais tous ces météores, aussi inconfortables furent-ils, n'auront rien été en comparaison des avanies que lui aura fait subir l'ânesse. Manifestement, Modestine prenait ses ordres directement auprès du démon. Quand nous savons à quel point nos amis d'outre-Manche sont subtils et patients dans l'art difficile du compromis pragmatique, raisonnable, on ne peut qu'admirer la virtuosité avec laquelle l'ânesse Modestine sut très modestement s'approprier cet art pour en bouleverser non seulement les règles, mais en pervertir l'esprit et pousser Stevenson aux limites extrêmes de la crise de nerfs. Pour le grand voyageur écossais, Stevenson était écossais, donc demander la plus infime coopération de sa partenaire à quatre pattes aurait eu autant de succès qu'essayer de tirer un pet d'un âne mort. À se demander si Modestine, charmante la nuit et diabolique le jour, ne fut pas l'inspiratrice du roman Dr. Jekyll et Mr. Hyde, toujours de Stevenson, et que celui-ci écrivit 5 ans après son périple Sévenoble, un périple qu'il publia sous le titre modeste et peu rancunier, Voyage avec un âne à travers les Cévennes. 5 longues années nécessaires au romancier écossais pour surmonter ce qu'il faut bien appeler un traumatisme psychologique majeur. Peut-être est-ce aussi la raison qui poussa Stevenson, né à Édimbourg en 1850, à passer les dernières années de sa vie dans les îles Samoa, au milieu de l'océan Pacifique, une des très rares régions du monde dans laquelle l'âne était encore inconnu. Alors, on terminera ce petit sujet par « Don't care peacefulness, that's a question », ce qu'on pourrait traduire en français « Un âne ou la tranquillité, telle est la question ». Accordons-nous maintenant une pause musicale avec Nolwenn Leroy, « Tri Madlod ». Grande famille des chevaux de race barbe, il en est un curieusement peu connu et dont la spécificité n'a pas encore été validée par les haras nationaux. Alors pour le trouver, inutile d'aller en Andalousie, au Portugal ou bien même en Afrique du Nord, il vit là, tout près de chez nous. Selon l'endroit où il est élevé, il prendra le nom de cantalou, donc on voit que c'est pas très loin, d'aumônée, de lozéro ou encore de jument de faille ou de ragot des montagnes. C'est le cheval de race Auvergne. Alors, selon certains, ce sont les Arabes qui l'auraient introduit jadis dans nos régions. Un scénario un peu sujet à caution quand on se rappelle que bien avant eux, les Romains avaient importé massivement des barbes d'Afrique du Nord, principalement en Gaule et en Espagne, pour en faire l'élevage et doter ainsi leur cavalerie et celle de leurs alliés de chevaux en nombre suffisant. Alors, physiquement, on va essayer de le décrire. Le cheval de race Auvergne est un costaud, un rablé. Sa taille est moyenne, aux alentours de 1m40, 1m45. Il n'est pas très grand donc. Quand on l'aperçoit, on est immédiatement séduit par son look sympa et rassurant de petit cheval de trait. C'est vrai, il ressemble un peu à un cheval de trait miniature. Sa robe est baie, plus ou moins foncé. Alors toujours baie, hein, voilà, avec des nuances différentes. Ses canons et ses pâturons sont noirs. Ajoutez à cela des sabots à la barbe, si je puis dire, autrement dit à la corne dense et solide. Ce genre de corne qu'apprécie tout particulièrement les maréchaux ferrants parce qu'elle est dure à tailler. Toujours à la barbe, il est de tempérament énergique et de caractère doux et docile. Longtemps, sa force lui a permis d'être utilisée comme cheval de trait ou encore cheval de labour ou aussi pour débarder le bois. Il faut dire qu'il revient de loin. La mécanisation dans les campagnes a failli le faire disparaître et ce n'est qu'en à la fin des années 90 que l'Association nationale du cheval de race Auvergne a été créée avec un beau succès puisque de plus en plus d'éleveurs s'intéressent à la sauvegarde de ce cheval. Alors parmi d'autres talents, en particulier celui de maître d'école dans les clubs d'équitation, c'est-à-dire ce cheval qui connaît la musique et qui permet aux jeunes cavaliers de s'initier sans trop de frousse. Donc ce cheval est un compagnon de randonnée idéal et ça je le répéterai et le re-répéterai, pour la rando il est formidable. Il n'a pas le caractère routinier et reste curieux de tout, depuis l'imprévu d'un chemin nouveau jusqu'à la halte du soir dans une écurie qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire c'est le cheval qui ne va pas commencer à râler parce qu'on prend le chemin de gauche alors que jusque-là on prenait le chemin de droite. Au contraire, il est content, il va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Alors élevé à l'extérieur, il est habitué au bruit de l'oiseau qui jaillit d'une haie juste devant son nez ou du lapin qui détale au ras de ses salauds. Là aussi, même pas peur. C'est un montagnard aguerri, au pied sûr, un véritable pied de chamois. Il n'est pas non plus du genre à s'émouvoir pour franchir un passage difficile, comme une passerelle en planche ou telle autre difficulté que l'on rencontre inévitablement dans toute randonnée. Et justement, même s'il sait sauter, tous les chevaux savent sauter, il préfère par tempérament franchir les obstacles du chemin, posément, en calculant bien son coup. Là, laissez-le faire avec confiance, il en sait plus que vous. Une autre qualité qui a son importance, la jument race Auvergne donne les particulièrement riches, très recherché par les fabricants de produits de beauté en raison de ses qualités particulières. Bon marcheur, solide porteur, énergique, volontaire, bien dans sa tête, rustique, ce petit cheval a vraiment tout pour lui. Tout sauf une chose peut-être, celle de ne pas vous avoir encore rencontré bientôt et devenir votre compagnon de randonnée. Alors pour celles et ceux qui veulent craquer, une adresse, Association nationale du cheval de race Auvergne, lien suivant www.chevalauvergne en un seul mot.fr et vous avez un téléphone 06 89 56 87 79 www.chevalauvergne.fr 06 89 56 87 77. Alors on va maintenant aller à la rencontre d'un cheval de légende. Alors ce cheval, on l'appelle le cheval Marwani et il vit dans le nord-est de l'Inde, plus précisément dans l'état du Rajasthan. Selon la légende, ces chevaux seraient issus du Grand Océan, le nom que les Rajputs donnent à l'océan Indien. Dans la réalité, ils font partie de la grande famille des chevaux de pur sang arabe, mais à la différence de ces derniers, ils possèdent une caractéristique remarquable, celle d'avoir les oreilles qui se recourbent l'une vers l'autre jusqu'à se toucher, des oreilles dites bouclées. Alors toutes les couleurs de robe sont admises, y compris la robe piste qui est assez rare. Cette race de chevaux a failli disparaître à la fin du siècle dernier. Elle a pu être sauvée in extremis par des éleveurs Rajput qui appartiennent à la caste des Intouchas. Vous savez qu'en Inde, il y a des castes. Et qui nomadisent dans le grand désert du Thar, qui est l'un des déserts les plus arides de la planète. Une légende donc explique pourquoi ces chevaux ont des oreilles bouclées et non droites comme celles de tous les chevaux. Alors, il y a bien longtemps, un roi désirait posséder un cheval qui serait différent de tous les autres chevaux de son royaume. En fait, un cheval unique. Il s'adressa à son dieu et lui fit part de son souhait. Celui-ci accepta la requête du roi et lui envoya un poulain dont les oreilles se rejoignaient au-dessus de la tête. Voilà pourquoi, depuis ce temps-là, tous les chevaux du royaume Rajput naissent avec des oreilles bouclées. Alors, le dicton de la semaine, et ça tombe bien, nous venons, pendant la coupure musicale, d'écouter Nolwenn Leroy, qui bien sûr est bretonne, et dont je recommande son excellent album qui s'appelle Bretonne. Eh bien, ce dicton, il vient de Bretagne. Et les Bretons, évidemment, sont de fins connaisseurs des chevaux, et puis ils les aiment, enfin, c'est certain. Et puis un des chevaux emblématiques de la Bretagne, c'est le fameux cheval de trait qu'on appelle le trait breton. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce dicton breton ? Il dit « Un cavalier qui ne sait pas marcher longtemps à pied ne tiendra pas longtemps à cheval ». Nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche de Rouergue 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. Alors merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à nos chevaux, oreilles bouclées ou non. Ciao, ciao.